d'un mouvement, l'adhésif est conduit celles et ceux qui veulent le toucher. Les gardes du corps finissent le travail. C'est la sortie du troupeau. Il faut agir ou les agents vont le faire. Marius, chauve comme l'adhésif, se dirige droit sur lui. Un garde du corps le retire.
Adhésif ! Adhésif ! Aide-moi !
Les yeux de l'adhésif se plantent droit dans ceux de Marius.
Que veux-tu, étrange animal ?
Je cherche l'adhésion, mon maître. Aide-moi. Les agents veulent me prendre pour m'enfermer. Mais je veux guérir par l'adhésion. Aide-moi, je t'en supplie.
D'un geste, il écarte le garde du corps.
Suis-moi.
La foule est presque entièrement sortie. Les agents se frayent un passage. L'adhésif mène Marius dans les coulisses de l'amphithéâtre.
Ici, tu es en sécurité. Mais tu ne peux pas rester.
Dans un sombre recoin, il soulève une trappe.
Sors par ce passage. Tu te retrouveras à rue du Cygne. Retrouve-moi ce soir, à cette adresse.
Marius prend le papier que lui tend l'adhésif et emprunte l'escalier, sombrant dans l'obscurité. Quand la trappe se referme sur lui, les agents arrivent sur l'adhésif. Dans le centre de la ville, l'eau coule doucement par les fenêtres des appartements. Marius est dans une série stupide où les bons traquent les méchants.
Monsieur O, vous avez délibérément refusé de choisir un emploi. Vous savez que la loi ne permet pas un tel comportement.
Je suis incapable de travailler.
Ça, c'est vous qui me dites. Personne n'est capable de travailler s'il ne s'en donne pas les moyens.
C'est vrai, mais j'ai la fuite. Je ne peux pas travailler. Voyez vous-même.
Le rôle du blanc se concerte avec le rôle du noir. Il regarde Marius et sa peau lisse, effrayante. L'inquiétude monte.
Effectivement, monsieur, vous n'avez pas l'air très en forme. Nous allons vous faire rencontrer un spécialiste. Votre sort en dépend. Mais comprenez bien, nous faisons cela pour le bien de tous.
Vous comprendrez aisément qu'il est bien trop tôt pour disposer d'une thérapeutique. Mes équipes travaillent sur une molécule qui permettrait de neutraliser les apoptines, mais il nous faut avant tout compléter nos connaissances sur la maladie. La science ne peut pas faire n'importe quoi avec ces malades. Nous avons une déontologie. Nous pouvons conseiller tout de même quelques mesures préventives. Pour ma part, je pense que toute personne susceptible d'être atteinte du SDF doit s'empêcher de penser. Les apoptines qui envahissent votre cerveau prolifèrent grâce aux influx nerveux qui le parcourent. Ces influx provoquent une multitude de réactions chimiques dans vos synapses, et ce sont précisément ces réactions qui sont le laboratoire de prolifération des apoptines. Et cette prolifération est exponentielle, ce qui la rend rapidement incontrôlable. Plus les circuits neuronaux, qui sont le support de votre pensée, seront parcourus, et plus le processus délétère sera précipité. En pensant le moins possible, vous retardez votre fin, c'est mathématique.
À présent, Marius est dans la même série. Mais les rôles ont changé d'apparence.
Monsieur O, j'en suis profondément navré, mais... Mais les évaluations prouvent que vous êtes atteint du syndrome de la double fuite. Ce qui explique, entre autres, que vous croyez vous appeler Marius.
Oui. Marius, c'est un nom d'emprunt. Je vous l'ai déjà dit.
Nous n'allons pas recommencer notre entretien, monsieur. Mon devoir est de vous protéger, vous et la société. Pour le moment, vous ne pouvez pas rester par ici.
Oui, je sais. Vous allez m'enfermer avec les fous.
Écoutez, ce n'est pas si simple. Je n'ai pas le choix, comprenez-moi bien. Pourtant, il y a peut-être une solution. L'épidémie de fuite est très inquiétante. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle molécule qui pourrait peut-être vous sauver. Si vous acceptiez de participer à nos essais, vous participeriez au bien-être de la collectivité. En outre, cela vous permettrait de rester à Paris ici, en milieu protégé, bien entendu.
Je participerai pas à vos expériences. Je serai pas votre cobaye. Tout ça, c'est ridicule, hors de question.
Comme vous voudrez. Mais nous allons devoir vous transférer en zone extérieure. Vous pouvez très bien y laisser votre peau.
Ma peau me dit que je dois pas la laisser avec vous.
Dans le cas de la fuite, c'est penser qui est de la folie. Mais je conviens que c'est délicat. Dans nos laboratoires, où nous disposons de malades suivis de très près, nous avons trouvé quelques solutions. Nous avons commencé par les endormir purement et simplement. Mais ce n'était pas viable, car tout en ralentissant presque totalement l'évolution de la maladie, il ne nous était plus possible de l'étudier. Et il n'est pas envisageable d'endormir une personne de façon constante. Cela pose des problèmes encore plus graves. La solution la plus simple que nous ayons trouvée à ce jour est d'exposer les malades à des programmes télévisés durant la totalité de leur temps de veille, alors même que nous étudions leur organisme. La très grande majorité des émissions limite les pensées des téléspectateurs au minimum. En tout cas, leur activité reste cantonnée à certaines zones perceptives et émotionnelles très peu étendues et bien connues. En quelque sorte, c'est l'effet hypnotique tant décrié de la télévision qui, ici, est salutaire. Donc, voici les seuls conseils que je puis donner aux auditeurs, potentiellement atteints de la fuite. Dormez beaucoup et regardez la télévision le reste du temps. Mais surtout, contactez-nous. Vous avez raison, c'est un point crucial qu'il nous faut élucider au plus vite. Certaines données montreraient qu'effectivement, la maladie de Marius est contagieuse. Mais pas d'affolement. D'autres données contredisent formellement les premières. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si un auditeur rencontre une personne susceptible d'être atteinte du syndrome de la fuite, il est invité à contacter d'urgence le numéro de santé publique que nous avons créé à cet effet, le 00 00 00 00 00 00 00. D'ici demain, un service de raccourcissement sera mis en place par l'opérateur Prothétis et il vous suffira de composer le 0. Il ne faut pas avoir de faux scrupules. Ces personnes sont en danger de mort. Et elles sont en incapacité totale de se rendre compte de leur maladie. En outre, elles peuvent contaminer leur entourage. Donc je le répète, d'ici demain, 12 fois 0, demain, 0.
Marius est transféré en zone 7. Il marche dans le grand parc de l'hôpital, se dirige vers son centre. Ses pieds lui font mal de nouveau. Il marche péniblement. Le voilà au croisement des allées. Au centre, la fontaine déborde. Pépé saute et danse dans l'eau.
Te voilà, petit gars! Enfin! Faut faire la malle!
Marius suit Pépé jusque dans sa chambre. Les portes du placard sont ouvertes. Pépé entre dans le placard.
Eh bien quoi? Suis-moi!
Marius ne sait quoi faire. Ses membres ne lui répondent plus. Ils sont durs comme le bronze.
Il faut croire! Crois en moi et suis-moi!
Les meilleures semelles, petit gars! Allez, remue-toi et marche!
Marius est somnambule. Il marche, entre dans le placard, disparaît. Dans la ville, les puissantes cataractes jaillissent par toutes les issues. Les pieds de Proline passent le seuil de la fenêtre. Dans la cataracte, son corps tombe, rejoint le flot des rues noyées de la cité. Les noyés flottent sur les eaux profondes. Ceux qui ne veulent pas périr puis le centre de la ville vers la périphérie. Il traverse, terrorisé, les zones extérieures. Mais l'eau les poursuit. Les barbares sont à leur trousse. Ceux qui sont à la traîne sont rattrapés, massacrés. Ils marchent vers les montagnes. De moins en moins nombreux, de plus en plus solitaires.
Celui dont je ne saurais sans doute jamais s'il m'engloutit ou s'il me vomit, et qui n'est peut-être que l'intérieur de mon crâne lointain, où autrefois j'errais, maintenant suis fixe, perdu de petitesse, ou poussant contre les parois de ma tête, de mes mains, de mes pieds, de mon dos, de ma poitrine, et toujours murmurant mes vieilles histoires, comme pour la première fois. Il n'y a donc pas à avoir peur. Malheureusement, j'ai peur, comme toujours, d'aller plus loin. Car aller plus loin, c'est m'en aller d'ici, me trouver, me perdre, disparaître et recommencer.
Épilogue. homme, prête l'oreille. Que dit le minuit profond? Je dormais, d'un rêve profond, me voici réveillé. Le monde est profond, et plus profond que le jour ne l'a cru. Profonde est sa douleur, et sa joie, plus profonde encore que ce qui lui crève le cœur. La douleur dit « disparaît », mais toute joie veut l'éternité, veut la profonde, profonde éternité.
Ils sont sur la grève. L'estuaire est vaste. Fendant les flancs puissants de la montagne, ils donnent sur l'océan. Au loin, à l'horizon au-dessus de la profonde étendue liquide, ils voient comme une nuée légère. La nuée grandit. Mais elle semble trouver son origine en un point à la surface de l'eau. Un point qui grossit et vient droit sur eux. Ce n'est pas une nuée, c'est un jet de vapeur. Non, peut-être un flot d'écume propulsé dans les airs. Glissant sur les eaux, elle approche. Dans une vitesse prodigieuse, elle fend l'écume. Elle vient, sa voile légère retombe sur l'eau. Elle sort de l'écume, marche sur le sable. Elle est belle et nue comme les dieux. Le soleil noir irradiant de ses cheveux est un sans-lieu. Elle passe devant eux sans les voir, marche droit vers la montagne.
C'est Théodore, mon fils. Oui, la divine Théodore. Il faut la suivre.
Ils cheminent dans la forêt profonde. La pente est raide. Théodore marche devant eux. Il la suit aux côtés de Pépé. Sa beauté est aveuglante, mais il ne peut détacher les yeux de sa taille merveilleuse. Sa merveilleuse taille qui ondule dans la marche et fait se mouvoir les formes divines. Le sentier serpente dans la montagne. La végétation se fait rare. Il est comme aspiré par elle.
Prends garde, petit gars. Je te vois. Et t'es près du gouffre. Si t'es nu comme elle, t'es un monstre. Si tu veux t'accoupler à elle, t'es un porc.
Il n'y a plus de sentier. Pépé lui prend la main. Il reste à distance, suivant ses pas qui leur ouvrent le chemin. Son souffle se fait court, il doit l'abandonner sur sa route. Alors, un cri déchire le ciel.
Regarde mon fils, voici l'aigle, il faut les suivre, tu dois pas faiblir.
Dans les cieux limpides et bleus comme la glace des plus hautes cimes, l'oiseau majestueux s'élève.
Thank you.
Alors le ciel s'obscurcit et les noires nuées passent devant le soleil. Un vent froid se lève, la nuit monte sur la montagne, mêlant toutes choses dans la profonde et terrifiante obscurité. Dans la vallée, l'eau a englouti la cité. Les corps flottent comme des voiles sombres sur l'étendue liquide. L'obscurité est totale. Il n'a plus que la main de Pépé pour suivre sa route. De moment en moment, un éclair déchire la nuit, faisant miroiter le corps nu et effrayant de Théodore, là-bas, vers les hauteurs. Il monte toujours, suivant aveuglément les fulgurantes apparitions. Puis un vent fort chasse les épais nuages. Ne demeure que le brouillard. Dans la brume légère, la lumière qui distingue toute chose redonne peu à peu ses formes au monde. Enfin, il fait grand jour. Le sommet n'est pas loin. Il passe devant un épais buisson d'où s'échappe une puanteur de charogne.
Derrière le buisson, il y a la grotte. T'arrêtes plus maintenant. Tu dois continuer à marcher et contourner le gros rocher là-haut. Tu dois plus regarder derrière toi, tu m'entends? Vas-y, tu dois affronter ta faim.
Il continue de monter, mais ne voit plus Théodore qui a disparu derrière le grand rocher. Il escalade les derniers degrés qui mènent au sommet. Dans son ascension, ses oreilles entendent d'abominables rugissements. Ni terreur, ni plaisir, ni homme, ni bête. Et croit reconnaître la voix de Pépé mêlée à celle d'une femme, au-delà de tout. Enfin, il est arrivé sur les plus hauts degrés. Mais au sommet, il ne voit pas Théodore. Sur l'étroite masse rocheuse, il est aux côtés du grand oiseau. L'oiseau met la dernière brindille à ce qu'il croit être un nid. Il se retourne et cherche du regard. Mais Pépé n'est plus là. Alors le grand oiseau se place au centre du nid, se dresse devant l'astre prodigue en ses rayons, déploie ses ailes, s'embrase avec le bûcher. Tout disparaît dans une lumière totale.
Thank you. Thank you.